avec l'Observatoire sociopolitique diocésain.
Pour l'Observatoire sociopolitique diocésain, nous accueillons ce mois-ci Louis-Jean de Barmont.
Chrétien du Moyen-Orient, une épopée vertigineuse. Du 5 au 8 mars dernier, le pape a réalisé un voyage officiel en Irak. Ce déplacement, attendu avec beaucoup de joie par les chrétiens d'Irak et ceux du monde entier, ranime l'énergie de l'espérance et participe à éclairer le monde sur les terribles tribulations qui ont frappé cette minorité, toujours en proie aux tourments de guerres fratricides. La paix est-elle ici un vœu pieux ? Les chrétiens du Moyen-Orient, comme une traînée de poudre, essayons de dresser un bref aperçu du christianisme dans ce quartier du monde. Au commencement fut Abraham, qui, dans l'ancienne plaine de Our, dans l'actuel sud-est de l'Irak et proche de l'Euphrate, entendit Dieu lui promettre une descendance innombrable. 2000 ans plus tard, Jésus, fils de Dieu, le Christ rédempteur, venait sauver l'humanité pécheresse. Depuis lors, le christianisme a irrigué le monde, et au Proche comme au Moyen-Orient, des communautés se sont créées. D'abord à Jérusalem, puis à Antioche et Damas. Ces premières églises primitives ont marqué l'iconographie chrétienne. Les premiers édifices furent érigés sous Constantin Ier, empereur romain au IVe siècle, qui se convertira au christianisme et à qui l'on doit la basilique du Saint-Sépulcre. Depuis lors, l'architecture chrétienne va essaimer le monde de ses chapelles et cathédrales. L'Esprit Saint providentiel va souffler en direction du monachisme qui se constituera avec l'apôtre Saint Thomas et s'illustrera à travers les pères du désert et en premier chef Saint Antoine le Grand, puis Saint Pacôme et Anastase. En Irak, Saint Matthieu, ermite syriaque, fondera en 363 l'un des plus vieux monastères du monde, celui de Marmataï, construit 200 ans avant le sacre de Clovis, ce qui nous laisse rêveurs et qui est aujourd'hui un symbole tangible de l'expansion du christianisme en Irak. Au 7e siècle, l'islam, sur les ruines des empires romains d'Orient et d'Occident, imprégnés qu'ils sont d'un christianisme génial, qui, comme le disait Paul Valéry, a réussi la synthèse d'avec un droit commun, un Dieu commun, un seul juge pour le temps, un seul juge pour l'éternité, va instaurer son pouvoir en s'appuyant sur des institutions locales dirigées et érigées par les chrétiens, population fortement éduquée et avisée sur les problématiques et questions sociétales de l'époque. Leurs compétences seront appréciées, d'ailleurs, des différents califes et de la dynastie des Omeyyades qui régna du 7e au 11e siècle. Les croisades viendront malheureusement affaiblir le pouvoir des chrétiens dans cette région du monde. Au XIXe siècle, les réseaux de communication de par le monde vont s'intensifiant, aidant au réveil de l'orientalisme, en ressuscitant un élan romantique en direction du Levant. C'est ce que l'on nommera l'époque levantine. Chateaubriand célébrera la Terre Sainte comme un retour aux sources fondant par là même la littérature monument, lui qui avait déjà commis l'esquisse de ce dessin avec son œuvre « Le génie du christianisme ». Gérard de Nerval en fera de même, puisant dans la mystique des symboles chrétiens la raison de son art. D'autres en feront autant, comme Lord Byron, Lamartine, Ingres, qui avec son odalisque anomale précipitera la peinture vers le sultanat. Le dialogue des cultures avait là une consécration. Je vous renvoie à l'extraordinaire œuvre d'Henri Laurence, professeur au Collège de France, qui raconte dans une somme d'une érudition sans précédent, intitulée « Orientale », les luttes et la rencontre des civilisations dans l'Orient arabe. L'Empire ottoman, qui débuta au XIVe siècle jusqu'en 1922 et dont Soliman le Magnifique, pour ne citer que celui-là, fut un réformateur avisé et atténua le sort des esclaves chrétiens. Cet empire va donc se déliter des suites de la Première Guerre mondiale et des nombreuses volontés séparatistes venues de Grèce, de Moldavie, de Serbie. Les Occidentaux seront mis à mal lors de la grande bataille des Dardanelles qui aura raison de la démission de Churchill, opposant la coalition franco-britannique à l'Empire ottoman. Mais le dépeçage de celui-ci est amorcé. Époque où un certain Laurence d'Arabie se distinguera comme officier de liaison. Le monde entier d'alors prendra part à un démembrement qui mènera à la tragédie du génocide arménien, population prise entre le feu des Turcs et ceux ralliés à eux et ne pourront compter que sur l'aide timide d'une Russie déjà engagée dans le Caucase. Les puissances européennes, la France et l'Empire britannique en premier chef vont se partager ce continent, avec le nord de l'Irak ayant pour capitale Mossoul, la Syrie et le Liban pour la France, le sud de l'Irak avec capitale Bagdad, la Jordanie et l'Égypte pour l'Angleterre. C'est l'époque de la Société des Nations et des mandats que s'octroient les Européens des suites de l'accord secret Sykes-Picot en imposant à leur manière la paix, acceptée sans ménagement par le 36e sultan de l'Empire ottoman, Mehmed VI. Cette administration coloniale aura des conséquences dramatiques pour les chrétiens qui tenteront de se rallier intellectuellement dès le XIXe siècle à un projet de nationalisme arabe, afin de créer une société civile forte émancipée de l'Occident, qui portera le nom de mouvement Nada. Une véritable élite littéraire et journalistique va alors voir le jour, motivée par les maronites libanais. Le revers de cette pièce historique va être à contrario la naissance dans les années 20 en Égypte d'un extrémisme religieux contre l'envahisseur britannique qui portera le nom des frères musulmans, un des grands sursauts de l'islam politique. En 1932, l'Irak gagne son indépendance en signant la fin du mandat français. Quelques années plus tard, un événement va prendre son essor d'une manière fulgurante avec une autre naissance conséquente dans le monde politique oriental, celle du Parti de la Résurrection, qui se réalise en Syrie, sous les traits de Michel Aflaq, de culture grecque orthodoxe, et ancien étudiant de la Sorbonne, et un musulman, Salah al-Din al-Bitar. Ce parti, plus connu sous le nom de Baas, va avoir comme postulat de départ l'unification des différents États arabes, afin de créer une seule et même nation. Cette idéologie fera son chemin. Pendant la guerre froide, le président égyptien Nasser va déployer la pensée du panarabisme. Mais pas seulement. Saddam Hussein en Irak, qui arrive au pouvoir en 1979, est un fidèle converti à cette vision séculière. Cette forme politique permet à tout un chacun de s'agréger à une identité nationale, permettant ainsi de transcender les religions, d'obtenir et de maintenir par conséquence l'intérêt supérieur de la nation, en anesthésiant les rébellions ethniques et religieuses, sans pour autant les oublier ou les inconsidérer. Par ce fait, les chrétiens seront protégés d'une certaine manière, sans subir l'humiliation du statut de citoyen de seconde zone, mais bien à part entière. Malheureusement, les guerres successives pour des intérêts économiques et pétroliers ne pourront assurer la pérennité de ce modèle. Durant les conflits répétés, les chrétiens d'Irak paieront un lourd tribut avec des exils successifs d'une ampleur considérable, et ce depuis la première guerre du Golfe, trouvant refuge pour certains aux USA, en Afrique francophone ou en Australie. En 2004, l'invasion de l'Irak par une coalition menée par les États-Unis d'Amérique, la France ne participera pas à cette guerre, lui valant les foudres de l'administration Bush, fera chuter le régime de Saddam, se substituant à celui-ci en organisant un régime de transition pendant 8 années. Cette intrusion aura pour conséquence de diviser le pays et d'exacerber les différences religieuses et tribales. Cet impérialisme états-unien entraînera la montée en puissance de belligérants comme l'État islamique. À cette époque, plus d'1,5 million de chrétiens vivent sur le sol irakien. L'un des premiers pays, rappelons-le, à avoir été christianisé et qui regroupe différentes sensibilités chrétiennes, comme les Assyriens, les Chaldéens, les Syriaques catholiques ou les Syriaques orthodoxes. Concentrés qu'ils sont dans le nord du pays, appelé la plaine de Ninive, faisant partie du Kurdistan irakien, entité autonome du nord de l'Irak, proche des frontières syriennes, turques et iraniennes. En 2014, souvenons-nous, l'État islamique imposait son califat à la région. Son action sera de mener une épuration ethnico-religieuse dans la région en s'en prenant aux minorités chrétiennes et yézidis avec une violence génocidaire, comme le rappellent Sarah Daniel et Benoît Canabus dans leur ouvrage « La putain du califat » qui témoigne du calvaire d'une chrétienne devenue esclave sexuelle de Daesh. Au vu de l'ampleur des désastres, la France s'engage militairement dans la lutte armée afin de porter main forte aux victimes et actionne différents volets humanitaires, politiques et judiciaires appelés « Plan d'action de Paris ». Mossoul est la première ville à pâtir de l'insurrection djihadiste. Un grand nombre de chrétiens devront fuir leur lieu de résidence mis à sac par Daesh. Karakoch et sa cathédrale seront détruites, ainsi que la maison des Dominicaines. L'évêque syriaque catholique Mgr Petros Moshe aura cette interrogation en janvier 2017. Mais qui va nous protéger? La ville de Karamlech et son monastère de Sainte-Barbe seront entièrement détruits. Bachika sera rayée de la carte, cette ville connue pour son huile d'olive et qui fut le refuge de la minorité yézidi, à laquelle les chrétiens vont apporter leur aide. Beaucoup de ces survivants trouveront refuge dans la capitale du Kurdistan, à Erbil, où l'ONG L'Œuvre d'Orient, présente depuis plus de 50 ans dans la région, avec comme premier directeur le cardinal Lavigéry, fondateur des Pères Blancs, accompagnera et accompagne toujours des initiatives existantes avec l'aide du Quai d'Orsay, comme c'est le cas avec le camp de réfugiés de Nishtiman, où 370 familles ont pu être recueillies. Mais tout cela suffira-t-il? À en croire le docteur Rabi, vétérinaire réfugié à Erbil et fer de lance de ce camp, le véritable problème, nous dit-il, ce n'est pas de reconstruire matériellement ce qui a été détruit. Le véritable problème est d'ordre politique. Si nous revenons dans nos villages demain, qui va nous protéger? Toujours cette même question en suspens. Le pape François, qui s'est rendu en Irak dernièrement, a insisté pour que les chrétiens protègent leurs racines. Racines d'autant plus profondes qu'elles sont les extrémités les plus lointaines pour nous occidentaux de notre construction spirituelle et historique. Ils sont aussi, avant d'être nos aînés dans la foi, ce patrimoine chrétien existentiel pour la survie des minorités en général. Les protéger, c'est défendre les minorités de par le monde, afin que s'accomplisse et s'incarne ce qu'il est courant d'appeler le bien commun. Certes, le pape a eu le courage de se rendre en Irak, dans ce pays à feu et à sang. Je vous disais plus haut qu'en 2014, l'Irak comptait 1,5 million de chrétiens. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous n'en dénombrons plus que 300 000. Véritable exode punitif. À ce titre, le capitaine Salam, d'une milice chrétienne, les NPU, membres du parti Zoa, qui s'écrit en 1979 pour défendre les droits des minorités chrétiennes, nous exprime ses espérances, celle de pouvoir un jour revoir les siens, sa famille, partie en Australie en 1990, durant la première guerre du Golfe. Alors oui, le pape réveille cette espérance théologale épuisée, démantelée dans les abattoirs des concupiscences guerrières, oubliée aussi peut-être pour certains qui se sont trop battus afin de se hisser hors des persécutions trop souvent essuyées. 30 ans d'une alternance de conflits guerriers, comment se construire ? Le pape est venu, il a tendu ses mains en direction des ignorances invincibles, rencontré les dignitaires kurdes, qui n'ont pas toujours été les plus amicaux avec les chrétiens, rencontré aussi l'ayatollah al-Sistani, qui fait figure d'autorité dans le monde chiite, mais aussi d'homme éclairé pour sa vision politique en étant favorable à un état laïque en Irak, considérant l'expulsion des chrétiens comme quelque chose de catastrophique. Après le symbole fort de la venue du pape, dont les chrétiens ont besoin, espérons ensemble pour nos frères que les politiques et différentes autorités convergent afin de signer des actes concrets. Espérons nous aussi avec les chrétiens d'Orient que l'encyclique du pape Fratelli Tutti réveille cette humanité raisonnable qui permet, selon les préceptes de la loi naturelle, une conservation de ce que nous sommes grâce à notre volonté et à notre désir mis au service du pardon et de la paix.
Pour entrer en contact avec l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Bayonne-Lescar-et-Oloron, 05 59 59 67 92.